France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunewald.
Bonjour à tous, dans le rétro, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette balade hebdomadaire. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez rester ici avec nous pour notre voyage dans le temps. Nouvel épisode, nouvel invité. Aujourd'hui, nous sommes avec un animateur et journaliste encore adolescent. Il est beau, il est grand. Bon, ça, on a dû lui faire au moins 1000 fois. C'est un vrai fils de tube, cathodique. Ça, c'est lui qui l'a écrit. Donc, niveau jeu de mots, ça va, on est presque au même niveau, je pense.
Je t'autorise, il n'y a pas de problème.
Je te remercie, Christophe Beaugrand. Bon, pas le temps de vous ennuyer, il y a du taf en ce moment. Nouvelle saison de Secret Story, lancement le 10 juin sur TF1, tous les jeudis ensuite sur TFX. Ninja Warrior aussi qui arrive cet été, des bêtisiers en prime. Bonjour la matinale sur TF1. Pas de vacances puisqu'à la présentation, vous allez remplacer Bruce Toussaint.
Tout ça. Oui, j'en étais bien rempli, effectivement.
Il y a le loto aussi. Est-ce que vous dormez de temps en temps?
Oui, je dors de temps en temps, mais tout va bien. Je suis très heureux. J'ai la chance, comme vous, je pense, de faire le métier que je rêvais de faire quand j'étais gamin. Donc, c'est pas trop difficile quand le réveil sonne. Et c'est un luxe, ça, c'est sûr.
Ninja Warrior. Le retour cette année avec Denis Brognard et Anaïs Grangerac qui remplace Iris Mitnar. C'est un remplacement définitif ou elle revient ou...
Alors, je sais
on
pas.
Sait, on sait pas.
En l'occurrence, là, effectivement, ça a été un remplacement, on va dire, au pied levé. Iris a eu des obligations professionnelles qui se sont arrivées à des dates qui ne coïncidaient pas et on l'a su 3 semaines avant. Donc, heureusement, Anaïs a répondu présent. Ça s'est hyper bien passé.
Après, mais si ça s'est très, très bien passé, en fait, peut-être qu'Iris ne reviendra jamais, alors.
Ça dépendra aussi d'Iris, mais après, je ne sais pas, alors pour le coup, ce n'est pas moi qui décide. En tout cas, l'enregistrement s'est très très bien passé. Donc moi, j'ai hâte. Là, on est en train de finaliser les montages de l'émission. Et voilà, vous découvrirez ça très vite, début juillet, sur TF1.
Ninja Warrior, c'est un parcours avec des obstacles à franchir au-dessus d'une piscine. Est-ce que vous faites les parcours hors antenne pour vous éclater un peu, pour s'amuser quoi?
On n'a pas le droit.
Ah
on
n'a bon
pas le droit pour des histoires d'assurance.
Ah.
Parce que si jamais quelqu'un se pète la cheville, on ne peut pas mettre en danger le... Si on perd un animateur en cours de route, on ne peut pas mettre en danger le... Voilà, tout un tournage. Il y a 400 personnes entre les 200 candidats, les techniciens. Enfin, c'est... Donc, on n'a pas le droit.
Donc, qui teste? Parce que ce n'est pas les candidats. Donc, il y a des testeurs.
Il y a des testeurs professionnels. C'est adapté d'une émission japonaise. Mais pour la version internationale, ce sont les standards américains. Il y a une boîte qui transporte ces espèces d'énormes constructions métalliques comme ça. Donc, ils le font aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Espagne. Et voilà, en l'occurrence, en France. Donc, on construit ça. Il y a des semi-remorques gigantesques qui traversent l'Europe. Et voilà, c'est toute une organisation. C'est un truc de dingue.
C'est énorme.
Ouais.
Ninja Warrior, c'est cet été donc sur TF1, c'est aussi sur cette chaîne qu'on vous retrouve chaque vendredi. Ça c'est dans la matinale Bonjour. Ça rentre bien dans la tête hein.
Il faut taper au bon moment.
Donc ça c'est la matinale Bonjour, c'est un peu comme ici en fait. Vous avez sur TF1 il y a la matinale Bonjour et nous France Bleu c'est devenu ici quoi, Bonjour ici.
Voilà, bah oui, on a des mots qui parlent aux gens. Voilà.
Voilà. Cet été, vous allez remplacer aussi donc, l'animateur tout-puissant, extrêmement velu, sosie de l'ours Balou. C'est super flatteur
ça
la façon dont vous décrivez Bruce Toussaint dans votre dictionnaire malhonnête de la télévision.
Ah oui, j'avais oublié que c'était moi qui avais écrit
ça. Je l'ai ressorti.
Ah oui, alors pour le coup, je connais Bruce de près et tout ce que je dis est vrai.
Même les poils, tout ça.
Ah oui, parfois on voit sa chemise ouverte, oui. Ah oui, c'est un nounours, vraiment.
Un peu comme Nikos, paraît-il.
Oui.
Enfin, en tout cas, c'est ce que vous avez dit.
Mais pas tout à fait le même gabarit.
D'accord.
On peut mettre 3 Nikos dans un Bruce Toussaint.
Bruce Toussaint, Christophe Beaugrand, il vous a soutenu en février dernier.
Ouais.
J'ai vu ça en préparant l'émission. J'ai halluciné. Vous avez été attaqué après avoir partagé votre peine suite à la disparition de Louise, 11 ans, qui a été poignardée par un jeune homme accro aux jeux vidéo. Alors là n'est pas le débat. Vous étiez proche de la famille. Le message, il était simple. Je me permets de le lire, on peut en parler?
Vous pouvez, oui, il n'y a pas de problème.
J'envoie mes pensées les plus sincères à la famille de Louise. Nous sommes avec vous. J'ai échangé avec le papa de Louise. Il remercie tous ceux qui soutiennent leur famille dans ce drame terrible et il demande qu'aucune récupération politique ne soit récupérée sur son malheur. Merci de respecter leur peine. On se dit un message comme ça, c'est touchant. Vous respectez la famille, vous êtes en soutien à la famille.
Et d'autant plus que la partie récupération politique était les mots de Sébastien, le papa de Louise, qui m'avait demandé de transmettre ce message parce qu'il n'avait pas envie que le visage de sa fille se retrouve sur des affiches ou ce genre de choses.
Et des manifestations. Exactement,
cette récupération, l'idée n'était pas que de donner de leçons à qui que ce soit, mais simplement de demander un petit peu de respect, et ça ne s'est pas passé comme ça.
En fait, même dans de pareilles circonstances, même en soutenant une famille qui a vécu le pire, même en ayant de la compassion, on s'en prend plein la gueule.
Oui, ça a été d'une violence ahurissante. J'avoue, j'ai jamais eu ce qu'on appelle des raids numériques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des espèces d'attaques sur les réseaux sociaux et vous recevez des centaines et des milliers de messages, d'insultes. Généralement, ce sont des messages un peu organisés. Donc, ce qu'on appelle des bots, des robots qui retweetent des messages. Donc, ça ne représente pas nécessairement tant de gens que ça, mais ça provoque une masse de messages extrêmement violent, et les gens m'écrivaient des messages à base énormément d'homophobie, puisque j'avais déjà parlé de ma famille. Il y avait des messages, en tout cas, ah mais lui, c'est pas un problème, si son gamin se fait tuer, il peut en acheter un autre, ce genre de choses, parce que voilà, j'ai eu recours à une mère porteuse aux États-Unis pour fonder ma famille, mais des messages atroces, et même des messages horrible sur le papa de Louise et sur sa famille. Ils ont exhumé des messages de la grande sœur de Louise qui explique les soutiens qu'elle a. Elle est très engagée, notamment sur le féminisme. Voilà. Et les gens disent « Ah bah voilà, tu vois, t'es une wokiste, bah tu vois, t'es bien punie, tu vois, tu veux pas, t'aimes pas les flics, regarde ce que ça donne, c'est bien fait, ta sœur est morte. » Mais des trucs monstrueux, monstrueux. Moi, j'ai pleuré pendant tout le week-end. Enfin, ça a été,
c'est ce que j'allais vous demander, vous en avez pleuré
dur. Ouais, alors, bah, ça ne me touchait pas que moi, là. J'ai pleuré de culpabilité parce que je me suis dit, j'ai voulu faire ce message pour les soutenir et les aider. Et j'ai été le catalyseur d'une espèce de mouvement de haine gigantesque. Mais ouais, ça a été très dur. Et ce qui a été très dur, c'est que c'est certains médias qui ont suivi le mouvement. Il faut comprendre, moi j'ai voulu les aider parce que je connais les médias depuis très longtemps. Je savais que quand il s'est passé ce qui s'est passé, il allait y avoir un déchaînement médiatique. C'était un week-end où l'actu était assez morne, donc je sais comment ça se passe. Un fait divers est extrêmement traité. Il y aurait eu l'élection de Trump ce week-end-là, on en aurait peu parlé de la petite Louise. Je sais comment fonctionne le système médiatique. Et du coup, j'ai voulu les prévenir, leur dire attention, les journalistes vont être, certains journalistes en tout cas, risquent d'être très intrusifs. Donc il y a l'oncle de Louise qui s'est retrouvé avec un journaliste de Paris Match en bas de chez lui, planqué jusqu'à ce qu'il rentre pour essayer d'avoir un témoignage. Ils ont réussi à trouver le numéro de téléphone de la grand-mère qui a reçu des dizaines de messages. C'est très difficile. Et j'ai voulu essayer de modérer un peu les choses. Et ça ne s'est, hélas, pas passé comme ça. Je devrais le savoir. Pourtant, je sais comment fonctionnent les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que j'ai regretté. Je dis, bah, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Et j'ai voulu aider. C'était un moment très difficile.
Christophe Beaugrand, avant de commencer notre voyage dans le temps, un mot quand même sur la nouvelle saison aussi de Secret Story. 13e saison. Saison 13, vous êtes superstitieux ou pas ?
Ah moi, non, tout va bien.
Ah, ça va.
Oui, non. Bah, de toute façon, 13 peut autant porter bonheur que porter malheur.
C'est vrai, mais donc, vous êtes de quelle team alors ? Plutôt bonheur ou plutôt malheur ?
Ah, moi,
ou je m'en fous.
Ouais, moi je m'en fous. Là, pour le coup, il n'y a pas de souci.
Christophe Beaugrand, les candidats donc, de Secret Story sont enfermés pendant plusieurs semaines dans une maison.
Ouais.
Chaque candidat doit préserver son secret tout en essayant de découvrir ceux des autres. Émission de télé-réalité. Dans le mot télé-réalité, il y a le mot réalité. Pourtant, les clashs, les histoires d'amour ont l'air toutes scénarisées. Vous pensez que ce qui se passe devant les caméras, c'est la vraie vie ?
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que ça ait l'air scénarisé. Je pense que ça a l'air scénarisé dans l'image que certaines personnes ont de la télé-réalité. C'est-à-dire dans des émissions comme Les Anges de la télé-réalité, par exemple, ou Les Marseillais, ou ce genre de choses, sont des émissions qui sont beaucoup plus scriptés, comme on dit, ou scénarisés. On choisit des candidats, les équipes techniques sont avec eux, ils sont filmés avec une caméra sous les yeux. À un moment donné, ils n'ont pas eu bien l'entrée du candidat. Ils disent « Est-ce que tu peux le refaire ?» Et tu rentres et tu ressors, etc. Secret Story, ça n'a absolument rien à voir. Ce sont des caméras automatiques qui sont en l'occurrence cachées dans des miroirs sans teint. Donc eux, ils sont dans une maison, entre guillemets, normale. Il n'y a aucune caméra nulle part.
Il n'y a aucune intervention.
La seule intervention qu'il y a de la production, avec, en tout cas la seule manière de parler aux candidats, c'est via la voix, qui est donc un personnage, mais qui est une sorte de maître du jeu. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'ils vivent. Après, évidemment, ça n'est pas la réalité d'une vie quotidienne.
Ici, dans le rétro.
Allez, on enclenche la téléportation. C'est parti pour notre voyage dans le temps. Il est 8h15 à la polyclinique de Massy, en Essonne. C'est là que vous naissez.
Oui.
Votre père est fonctionnaire, votre mère secrétaire médicale. À l'âge de 2 ans...
Ah, pas du tout.
C'est vrai ?
Ah non, 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 mon papa était cadre commercial et ma maman au foyer. Mais c'est pas grave. Mais je suis
bien... Non, en fait, je voulais voir si vous réagissiez.
Mais je suis bien né à la polyclinique de Massy. Voilà, il n'y a pas de problème.
Et pourtant, ces professions-là, je suis sûre qu'elles sont sur Wikipédia.
Ah, c'est possible.
Mais parce que moi, j'ai voulu fouiller et j'ai été chercher plus loin. Je voulais pas me satisfaire de Wikipédia.
Mon papa travaillait à Alcatel Câble. Il vendait des câbles.
Ouais.
Notamment les câbles avec lesquels on faisait des antennes pour les télévisions. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est. Et ma maman au foyer, voilà.
D'accord.
Bon. Mais elle aurait pu être secrétaire médicale, mais bon, non.
Allez, premier plantage. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais vous relevez, hein, si je me plante.
Pardon, je me suis permis.
Ah, mais vous avez carrément raison.
Je me dis, si elle écoute, elle va se dire, qu'est-ce qu'il raconte, là?
On continue à l'âge de 2 ans, donc vos parents divorcent, c'est vrai ou pas? Non, mais maintenant, je vais avoir peur à chaque information.
Non, mais c'est une blague. Mais non.
Non, sérieux?
Non, mais... Ah, elle est en train de me faire un plan de la voix. C'est ça, j'ai compris. Mais alors, ça, c'est un truc classique dans Secret Story. On fait des pièges comme ça.
Donc, vous avez été élevé principalement par votre mère, non?
Ben non.
Alors, racontez-nous votre enfance, Christophe Beaugrand.
Non, tout va bien.
Quelle enfance vous avez eue? Comment... Quelle valeur? Non, mais quelle valeur? Non, mais c'est vrai, c'est faux ce que je vous dis là.
Comme nous avons... Ben oui, c'est faux.
Tout est faux.
Là, pas tout, le début était vrai, mais non, mes parents sont restés ensemble toute leur vie. Mon papa est mort quand j'étais assez jeune, quand j'avais 24 ans, mais sinon, oui, bon, tout va bien.
Ça se voit que je suis rouge ou pas, que j'ai honte
non,
ou pas
non,
est-ce
pas
que ça
tout.
Se voit un peu? Parce que je me dis, mais dans quoi je suis partie? Alors, je ne saurais plus vous dire le site sur lequel je l'ai vu.
Ah non, mais je croyais que c'était un prank. Là.
Mais
ce n'était
pas
une blague,
un prank,
là.
Mais non, je vous assure, je prépare mes émissions sur... Mais j'ai honte, mais sérieux, mais... Bon, on va passer à la suite. Et non, mais alors j'ose plus maintenant, j'ose plus continuer, parce que
c'est très rigolo, du coup.
Oui, alors, moi, je me sens un petit peu seule, quand même.
Il y a quoi derrière, alors? Donc non, mes parents s'entendaient très bien, ils étaient très, très amoureux, et j'ai vécu une enfance très heureuse dans une famille...
Vous voulez que je vous pose la prochaine question que j'avais prévue, du coup?
Oui, je vais voir pour voir ce qui suit. Comme ça.
On va partir dans une fiction, finalement.
Oui, mais je peux répondre ce qui vous arrange.
Alors, voilà, donc on va planter le décor, c'est une fiction.
On va planter l'émission, surtout.
Donc, fiction. Ma prochaine question aurait été...
Vas-y.
Donc, comme vos parents ont divorcé à l'âge de 2 ans, n'est-ce pas?
Oui. Oui, ça a été un truc très difficile.
Oui, parce que en fait, vous avez été élevé principalement par votre mère.
Oui, oui.
Oui, oui. On sous-estime quand même la force qu'ont les mamans solo pour élever leurs enfants. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à ces mamans solo?
Alors, je les aime beaucoup parce que ce sont souvent des téléspectatrices. Donc, c'est très bien. Voilà.
Et donc, on salue votre maman secrétaire médicale qui nous écoute.
Qui est à la retraite maintenant, après 40 ans de secrétariat. Mon père travaillait beaucoup, ceci étant.
Ouais.
Donc, c'est vrai que c'est plus ma maman qui m'a élevé. Mais bon, mon père m'a élevé quand même. Voilà. Et il m'a transmis des valeurs de travail et de parce que c'était un gros bosseur.
Est-ce qu'on peut dire que là je suis en panique et que je me dis mais en fait
non,
ce que je vais dire pour la suite de l'émission puisqu'on est censé retracer votre vie, si ça se trouve je vais retracer une vie qui n'est pas la vôtre.
Mais c'est peut-être la
vie
de quelqu'un
d'autre. Alors peut-être que c'est la vie
de
Julien Clerc parce que j'ai travaillé aussi sur la mission de Julien Clerc.
C'est-à-dire que moi j'ai jamais fait l'Olympia mais on peut toujours essayer.
Je tente la suite.
Vas-y.
Christophe Beaugrand, on part maintenant en 1989. Nous voici au collège de Villebon-sur-Yvette. Ah, ouf.
Tout va bien. Tout va bien. J'étais bien au collège à Villebon-sur-Yvette.
Vous êtes là dans le couloir, Christophe Beaugrand. Vous ouvrez votre casier. Il y a un petit mot. Tiens, t'as mis le soutien-gorge de ta mère.
Oui.
Des petits mots, il y en aura d'autres. Aujourd'hui, on parlerait de harcèlement scolaire. Comment on trouve la force d'aller à l'école quand on sait qu'on va souffrir?
Je ne sais pas si les choses... sont aussi conscientes que ça quand on est gamin, parce que ça, c'est quelque chose d'assez pernicieux, le fait de devenir une tête de turc dans un établissement scolaire, dans une classe où les moqueries reviennent. Après, il y a toujours aussi des personnes que vous aimez bien, que vous êtes content de retrouver. Et puis après, un enfant, il suit le mouvement, il faut aller à l'école tous les jours, point.
Avec
la boule au ventre. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, le concept, entre guillemets, de harcèlement scolaire, il n'y avait pas de nom, on ne mettait pas de nom sur ce genre de phénomène. Ça a été beaucoup d'insultes à base d'homophobie, même avant que je moi-même comment dire, me reconnaissent ou me sentent homosexuel, me reconnaissent comme homosexuel. D'autres, visiblement, il devait y avoir des indices, avaient mis le doigt dessus. Et du coup, j'ai vécu des moments pas faciles et surtout très secrets parce que c'est quelque chose que je voulais pas aborder à la maison. Je voulais pas risquer. En fait, j'avais peur de déranger mes parents, de poser problème, en fait. Aujourd'hui, on en parle. À l'époque, on n'en parlait pas. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas osé aborder.
C'est pour ça, c'est parce que vous aviez peur que ça devienne un problème pour vos parents.
Ouais.
Vous aviez peur qu'ils culpabilisent ou au contraire qu'ils interviennent peut-être. Qu'est-ce que...
Alors, ni l'un ni l'autre. Je pense que simplement, je pense que quand on est gamin, on a envie que vos parents soient fiers de vous. Et je voulais pas être celui qui allait poser problème. Donc, en plus, moi, j'étais un petit garçon plutôt joyeux. Je faisais toujours des blagues, etc. Et ça collait pas avec le garçon potentiellement triste. Donc ça, j'ai beaucoup caché, j'ai pris sur moi. Après, bon, voilà, je pense que ça m'a construit aussi. Pour tous les jeunes qui nous écoutent peut-être ou les familles qui sont concernées, c'est pas forcément un drame, c'est difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut en faire quelque chose de ces souffrances qu'on a pu vivre quand on était un peu plus jeune.
Oui, mais ça vient plus tard.
Oui, exactement.
C'est-à-dire
ça
que
vient
sur l'instant,
tard.
C'est très difficile
c'est
de
très
se
difficile.
Dire ça.
C'est très difficile. Moi, je me suis beaucoup réfugié dans le. J'étais un très bon élève dans le travail et puis dans mes rêves aussi. Et ces rêves, notamment, ce rêve de faire de la radio, de la télé. Je pense que ça a été un moteur aussi. Mmh. Un moteur pour prouver à tous ceux qui avaient pu se moquer de moi ou m'humilier que j'allais réussir quelque chose. Et quelque chose, entre guillemets, d'exceptionnel. En tout cas, dans le projet que j'avais en tête, moi, mes parents m'ont jamais découragé. Et c'est vrai que sur le papier, quand tu es un gamin de 12 ans et que tu dis moi j'ai envie de devenir présentateur à la télé, à la radio, on dit bah attends, en plus à l'époque il y avait 5 chaînes,
ouais.
On dit bon bah quand même il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, hein, donc, mais mes parents ne m'ont jamais découragé, au contraire.
Vous disiez, Christophe Beaugrand, que vous ne vouliez pas en parler à vos parents, finalement, pour ne pas les alarmer, pour ne pas les inquiéter. Mais qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse si justement l'adulte venait à vous, en fait ? C'est-à-dire que ce ne serait plus à l'enfant d'aller parler à ses parents, mais plus peut-être aux parents ou à l'équipe éducative de venir.
Oui, ça peut être des surveillants, des profs.
Qu'est-ce qu'il faudrait que les adultes disent ou fassent quand ils sentent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.
Aujourd'hui, il y a des formations pour qu'on puisse repérer, je parle des personnels encadrants dans les écoles, qu'on puisse repérer ce qu'on appelle les signaux faibles. Mmh. Quand on voit qu'il y a un gamin qui était bon élève, par exemple, et qui se met à avoir des petits problèmes, quand les profs quand même voient beaucoup de choses, voient quand même quand un enfant est mis un peu plus de côté. Et effectivement, il faut réussir à faire parler. Il faut briser ce silence. C'est que silence que j'ai eu, moi, et qui s'expliquait qu'était lié à une époque aussi.
Ouais.
C'était les années 80. Voilà,
On n'en parlait pas.
Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais hélas, moi je milite dans plusieurs associations contre le harcèlement et j'interviens dans des collèges et des lycées. On sait, et j'ai discuté avec pas mal de parents, dont certains qui se sont retrouvés, j'allais dire orphelins, mais non, c'est l'inverse, il n'y a pas de mot pour des parents qui perdent leur enfant, ça n'a pas de nom, de toute façon c'est innommable. Et je discutais notamment avec une maman qui m'expliquait, sa fille avait fait bonne figure et ils ont découvert avec la famille ce qui lui était arrivé une fois que la petite était morte. Et un matin, c'est un truc, je suis désolé, je vais déprimer tout le monde, mais...
Non, mais c'est une réalité
un
aussi.
Un matin, elle appelait sa fille pour le petit déjeuner, elle ne répondait pas, elle a ouvert la porte, elle s'était pendue. Et la gamine avait 13 ans, comment tu veux après... Et elle a créé une association et aujourd'hui, c'est un vrai combat. Mmh. Ce qui lui permet de tenir, je pense que tu fais de ta vie un combat quand tu as vécu quelque chose d'aussi difficile.
Bien sûr. Embarquement pour l'année 1999. Nous sommes sur le campus de l'Université de Bordeaux. Vous étudiez le journalisme. En parallèle, on vous découvre sur Antenne 2 dans l'émission Sous vos applaudissements.
1, 2, 3. Je m'ai donné du poids.
Imitation de Maïté.
Je ne sais quoi.
Magnifique.
Quelques kilos. Mais ça ne se voit presque pas.
Mon Dieu.
Vous auriez dû être chanteur.
Non, alors vraiment pas. Mais ouais, cette parodie de Maïté sur du Ophélie Winter, pourquoi pas
Alors j'aurais pu sinon mettre un extrait de Coucou c'est nous quand vous aviez 15 ans et que vous faisiez le bruit du train.
Oui.
Ce qui donnait...
C'était pas terrible.
Ah moi je pensais que c'était... l'arrivée en fait.
J'avais fait les deux. J'avais fait le bruit du... Et après, j'avais fait le train en provenance de... Non, c'était nul. Non, mais oui, ça, j'avoue que on sentait cette envie de faire des conneries à la télé quand même.
Sous vos applaudissements, c'est un concours en fait qui permet aux gagnants de décrocher un contrat d'animateur pendant un an sur Antenne 2. Vous avez alors 20 ans, mais la télé, la radio, c'est quelque chose qui vous anime depuis très jeune. Vous dites qu'on se construit aussi dans la solitude. Est-ce que faire de la télé, être connu, c'est être aimé et être moins seul, justement ?
Je pense que c'est assez basique, mais ouais, c'est un peu ça. Les souffrances que j'ai pu connaître quand j'étais plus jeune et cette envie de me faire aimer, d'être le vilain petit canard, ça donne envie de devenir le garçon populaire du collège ou du lycée. Alors, c'est arrivé un peu plus tard, puisque du coup, c'était pas au collège et au lycée. Et j'ai eu cette envie d'aller vers les autres pour compenser ces manques-là, probablement.
Ouais, donc, pour être aimé, mais est-ce que finalement, cet amour, il est vraiment, il n'est pas un peu volatile ?
Je sais pas si on peut dire pour être aimé, je dirais pour entrer en relation avec l'autre. Parce que j'ai toujours eu cette problématique-là quand j'étais gamin. Et moi, j'avais envie d'aller vers les gens. J'ai toujours eu cette espèce d'appétit-là, cette curiosité. Et puis, je me rendais bien compte que ça n'était pas partagé. Ça n'était pas réciproque. Et moi, j'adore l'idée de parler aux gens. Moi, je croise souvent des gens dans la rue qui me parlent. Je discute beaucoup avec les gens sur les réseaux sociaux. C'est une relation qu'on crée à plusieurs. Enfin, c'est vraiment quelque chose. L'idée d'agréger une communauté, que les gens vous connaissent, que les gens s'attachent à vous. Moi, je trouve ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc moi, je prends toujours beaucoup de plaisir et une attention infinie à répondre aux gens. Quand sur les réseaux sociaux, je réponds, c'est toujours moi. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est un community manager. » TF1 me l'avait proposé pendant un temps de prendre en charge mes réseaux sociaux quand il y avait beaucoup de messages. Mais moi, je n'ai pas voulu parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des messages qui partent de moi et qui soient signés par quelqu'un d'autre. Moi, je suis dans une espèce de relation directe avec les gens.
Donc allez-y, si vous avez des petites choses à demander, des petites questions à poser à Christophe Beaugrand sur Instagram, c'est possible, il vous répondra.
Mais pas d'insultes, s'il vous plaît. J'en ai déjà pas mal, donc mais des trucs gentils avec plaisir.
On parlait de la solitude plus jeune. Aujourd'hui, vous pouvez compter sur vos amis. Les amis, c'est une deuxième famille pour vous ?
Ah oui, oui, c'est sûr. C'est un noyau qui est assez restreint, mais extrêmement fidèle.
Alors, en parlant d'amitié, Christophe Beaugrand, on a un message pour vous.
Salut Christophe, salut Déborah. Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'imagine que oui. Déborah, j'espère que tu as demandé à Christophe de te faire une petite imitation parce qu'il est très très bon en imitation. Bon, très très bon, j'exagère un petit peu, mais tu vas voir. Il est très doué. Notamment, ma préférée, moi, c'est Chantal Latsou.
Voilà, voilà. Donc, c'est Sandra Marconi, chroniqueuse culture sur LCI. Accessoirement, votre meilleure pote aussi.
Exactement.
Alors, allez-y, Laurent Gérard, Christophe Beaugrand, pardon, c'est à vous.
Alors, vous voulez laquelle? Parce qu'effectivement,
Chantal Latsou.
Je peux en faire Maïté, mais...
Alors, oui, bonjour, c'est Chantal Latsou. Alors, j'espère que t'as un petit peu révisé ma bio. Est-ce que j'ai l'impression qu'elle dit n'importe quoi, c'est Deborah Grunewald? Qui c'est qui a fait les fiches? C'est n'importe quoi. Je peux te faire Dominique Besnéard parce que je trouve que... Moi, j'aimais mieux quand ça s'appelait France Bleu parce que ici, excuse-moi, mais c'est une marque ici. Alors, si jamais je dois dire... Alors, ici, c'est sensationnel. Moi, ça... Alors, je préférais un truc du genre France Bleu, c'est super. C'est plus facile que ici, c'est sensationnel. Sinon, je peux te faire... je pense que tu vas adorer un petit Philippe de Villiers. J'aime bien cette radio parce qu'elle met en valeur le pays, la France, les territoires. Et la Vendée, ici Vendée, ici les Chouans, voilà, ici le Puy du Fou.
Vous êtes entraîné ?
Non, j'ai pas révisé avant de venir. J'ai pas révisé, c'est pas la peine.
L'amitié, Christophe Beaugrand aussi, c'est parfois des déceptions, c'est parfois des trahisons. Vous dites, si on me trahit une fois, on ne me trahit plus jamais ensuite.
Disons que je suis entier, donc après, c'est pas, je suis pas dans la revanche, dans la haine ou
dans la rancune.
C'est pas ça du tout. C'est juste que je veux pas être blessé à nouveau, donc je préfère passer à autre chose.
Donc vous calculez plus la personne, quoi.
Ouais, mais ça m'est pas arrivé beaucoup. Hein. Ça m'est arrivé une fois, une bonne grosse trahison professionnelle pour le coup. C'était pas un ami, mais c'est quelqu'un à qui je n'adresserai plus jamais la parole de
c'est
toute mon existence.
Non, je déconne. Non, on va pas balancer.
Je vais pas le dire.
Non.
Mais c'est marrant, cette personne m'a envoyé un message il y a pas si longtemps sur les réseaux sociaux en disant oh, j'aimerais bien reprendre contact avec toi, mais j'ai jamais répondu. Enfin, à un moment donné.
Pourtant, vous répondez à tout le monde.
Ben, pas aux enfoirés. s'il se reconnaît, bisous.
La télé vous ouvre ses portes en 1999, la 5e, France 2, TPS Star, LCI. Je dis, elle vous ouvre ses portes, mais est-ce que vous avez dû les défoncer, en fait, ces portes?
Il faut toujours un petit peu. Moi, j'ai fait mon premier stage en avril 1999, mais après, j'ai surtout travaillé sur LCI et j'ai fait le siège du bureau de Jean-Claude Dacier, le patron de l'époque, parce que je voulais faire des remplacements de JT. J'avais cette envie-là déjà depuis longtemps et au bout d'un moment, il a fini par craquer parce que je l'ai saoulé, je crois, vraiment. Donc oui, à un moment donné, la chance, ça va se chercher aussi de temps en temps.
Il faut avoir du culot.
Oui, je pense qu'il faut avoir de l'inconscience. Et quand tu es jeune, t'en as. Parfois, tu la gardes. Il faut à la fois avoir une certaine lucidité sur tes capacités et une inconscience, parce que si jamais tu essayes de mettre un petit peu de sens là-dedans, quand j'ai décidé de me lancer dans ce métier, de dire que je vais faire de la télé, de la radio, et que dans ma tête, je n'ai jamais envisagé l'idée d'un plan B, il faut avoir une certaine dose d'inconscience.
Ouais.
Mais j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce rêve-là. Moi, je pense qu'il faut réussir à... T'as pas besoin d'écraser les autres, il faut y croire plus que les autres.
Ça veut dire qu'en télé, on n'écrase personne ?
Alors, ça peut peut-être arriver. Moi, j'ai eu la chance d'être plutôt chanceux. Enfin, j'ai été plutôt chanceux dans ce métier parce que j'ai jamais eu ce genre de choses. J'ai rencontré plutôt beaucoup d'amis, en fait, de gens qui sont devenus des amis.
Christophe Beaugrand, vous avez été pendant longtemps chroniqueur, animateur en duo aussi, et vous avez fini par animer vos propres émissions. On appuie sur le bouton, on part à Saint-Denis, en région parisienne, en 2015. Nous sommes au 12 rue Saint-Denis, dans un chalet à 20 mètres de hauteur. C'est là que se trouve la maison des secrets de Secret Story.
C'est 12 rue de la Montjoie, si tu veux avoir la vraie adresse.
Au moment où je l'ai lu, je me suis dit, attends, c'est pas 12 rue Saint-Denis.
Non, c'est 12 rue de la Montjoie, à la plaine Saint-Denis.
Oui, on n'est pas obligé de soulever toutes les erreurs.
Non, mais je te dis ça au cas où.
Moi, non, mais bon, on va faire comme si de rien n'était.
T'inquiète.
J'ai halluciné parce que moi, je savais pas, c'était une maison à 20 mètres de haut sur les plateaux.
Oui.
Au-dessus des plateaux.
Ça, c'est assez incroyable. En fait, cette maison avait été construite par Jean-Luc Azoulay, le A de AB Productions.
Premier baiser, Laine et les garçons, Club Dorothée, tout ça.
En fait, il l'avait construit comme un élément de décor sur le toit du studio. Mais en fait, c'était une maison pour lui. À l'époque, il y avait tellement de production qu'il perdait un temps fou à faire des allers-retours. Donc il s'est dit, je vais habiter là. Alors il n'avait pas le droit de construire une maison ici, donc il l'a fait passer comme un élément de décor. Et
c'est
ensuite,
délirant.
Cette maison est restée perchée sur le studio. Elle existe toujours, il y a un jardin.
Il y a des photos sur Internet, c'est bluffant.
Il y a un jardin qui doit faire 700 mètres carrés. Ils ont fait monter des tonnes et des tonnes de terre. Il y a une piscine, il y a des arbres. C'est sur le toit d'un hangar dans lequel il y a des studios télé encore aujourd'hui. Et la maison existe, elle est utilisée pour des tournages encore aujourd'hui.
Bon, on n'est pas là pour parler d'immobilier. Mais
en aide vendeur, je ne sais pas combien ça. C'est un peu rétro, hein, là, au niveau de la déco, il y a un peu de boulot. Mais c'est chouette quand même.
Christophe Beaugrand, vous allez présenter bientôt la nouvelle saison de Secret Story. Quand on anime de la télé-réalité, on est vite catalogué. Est-ce que vous connaissez le youtubeur Sam Zira ?
Oui, bien sûr.
Alors, il reçoit beaucoup de gens de télé-réalité, il leur donne la parole, les prend pas de haut. Ces questions, elles sont parfois légères, parfois profondes, politiques aussi. Vous pensez qu'on les snob, ces candidats ?
Oui, je pense aussi. D'ailleurs, j'aime beaucoup le travail de Sam. Il fait un travail très intéressant parce que effectivement, il les respecte. Vous savez, la télé-réalité, c'est comme tout. Il y a des gens très bien, il y a des gens moins intéressants. Croyez-moi que dans les comédiens entre guillemets qui ont la carte et qui jouent dans des très très beaux films qu'on voit monter avec des robes de soirée, les marges du Palais des Festivals, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des flèches. Mmh. Ce ne sont pas forcément des gens extrêmement brillants qui ont beaucoup de choses à raconter. Et c'est pas parce que tu fais de la télé-réalité que tu es forcément un imbécile. Puis j'ai beaucoup de respect pour tous ces jeunes qui sont jeunes généralement, ces jeunes candidats qui font le spectacle quand même tous les jours. Je dis toujours, quand on fabrique de la télé-réalité, c'est de la matière humaine entre guillemets. Donc c'est eux qui nous apportent le contenu avec lequel on fabrique des émissions. Et il faut une espèce de générosité, de confiance, et il y a quelque chose, une prise de risque, c'est pas donné à tout le monde de faire ça.
Mais ils sont très vite catalogués.
Mais oui, ils sont catalogués, mais pas tous. Là, je vois l'année dernière, on a donc relancé Secret Story l'année dernière après 7 ans d'arrêt. On a un des candidats qui est arrivé jusqu'en finale, qui s'appelle Léo, qui aujourd'hui a décroché un rôle dans Plus belle la vie. Il va commencer dans les épisodes de la diffusion au mois de juillet. On a une des candidates qui s'appelait Justine, qui était extrêmement drôle, qui a été embauchée par la Française des Jeux comme animatrice sur TF1 et qui anime l'Euro Dreams, qui est un tirage de la Française des Jeux. Ça peut être le point de départ de quelque chose. Soit t'as du talent et t'as quelque chose, après ça dépend ce que tu en fais. Ouais. Et si jamais t'es récupéré par des émissions de télé-réalité un peu moins bien produites qui te demandent de t'auto-parodier, il faut se méfier de ce qu'on fait derrière.
Christophe Beaugrand, Destination Maintenant 2016. Nous sommes dans une librairie, là sur le rayon, il y a l'éloge de la loose, les moments de solitude. Dans le fond, ce livre, c'est une façon de dire on peut être imparfait et heureux en fait.
Mais il n'y a que en étant imparfait qu'on est heureux, parce que vu que la perfection n'existe pas, si jamais on veut être parfait, on est très malheureux.
Est-ce que vous pensez qu'on est trop obsédé par la réussite ?
Je ne sais pas si on peut dire obsédé. Je pense que c'est un moteur, avoir envie de réussir des choses dans sa vie. Je pense que le problème n'est pas d'être obsédé par la réussite, le problème est de ne pas pouvoir accepter l'échec. La route vers la réussite est forcément pavée de claques dans la gueule et d'échecs et de choses qui se passent moins bien. Et c'est pas grave, c'est comme ça aussi que tu avances. Et puis une porte qui se ferme, ça veut dire d'autres qui peuvent se rouvrir.
Je le dis après coup, ça.
Parfois pas.
Ah ouais, sur l'instant ?
Ouais. Oui, alors ça fait mal. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour réussir, il faut avoir envie plus que les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se décourager une fois qu'on vous a dit non, une fois, deux fois, trois fois, il faut quand même y croire. Moi, dès mes études, l'école de journalisme de Bordeaux, j'avais mon prof de télé qui m'avait dit « Beaugrand, je ne vous mets pas en stage en télé parce que vous n'êtes vraiment pas fait pour faire de la télé. » Ça aurait pu complètement me foutre un coup et me décourager et je serais parti sur autre chose. Mais sauf que moi, dans ma tête, ce n'était pas ça, ce n'était pas comme ça.
Est-ce que vous pensez que tout est écrit et que finalement, là où vous êtes aujourd'hui, c'est justement en ayant traversé ces échecs et que, oui, la place où on est, c'est celle qu'on doit occuper?
Si on dit que tout est écrit, ça ne donne pas envie de faire des efforts.
Ouais,
c'est juste
c'est
ça.
Vrai.
En revanche, je pense que quand on sent quelque chose très profondément et qu'on se dit qu'on est fait pour ça, il faut y aller à fond.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
On rappuie sur le bouton destination le domaine de Blanchefleur à Châteauneuf-de-Gadagne.
Oui.
Ça, c'est vos potes qui applaudissent.
Ça faisait plus de bruit, je crois. J'ai des potes plus bruyants que ça, beaucoup plus bruyants.
Nous sommes le 28 juillet 2018. Après 7 ans de vie commune, vous épousez Ghislain. Est-ce que vous croyez aux âmes sœurs?
Ah, je crois qu'en tout cas, ma rencontre avec Ghislain, il s'est passé quelque chose. Ça fait 14 ans maintenant qu'on est ensemble et tout va bien. Enfin, on se comprend, Ouais, il y a eu un hasard de rencontre qui a fait que, alors je ne sais pas si on est des âmes sœurs, mais en tout cas, je me sens très très bien avec lui. J'espère, je pense que c'est réciproque. Je dirais que c'est plus que mon mari et que quelqu'un que j'aime. C'est un ami, c'est quelqu'un à qui j'aime parler, j'aime débattre. Bon, on s'engueule quand même beaucoup pour l'éducation de notre petit garçon parce que
ça,
je suis un peu
sujet.
Trop, non, je suis un peu trop cool et lui, il n'est pas du tout. Donc en même temps, je pense que ça fait un équilibre. Mais sinon, voilà, on est très très heureux.
Et c'est bien de s'engueuler, effectivement.
Ah, ben on s'engueule
c'est bien,
tout le
ça
temps,
fait
donc...
Non, mais ça fait l'équilibre, effectivement.
Oui, mais je pense que ça... Oui, alors il y a des couples qui ne s'engueulent jamais et qui se séparent au bout de 4 ans. Voilà, nous, on s'engueule assez régulièrement. Et bon, ça fait 14 ans qu'on est ensemble et a priori, tout va bien.
Puis après, on se réconcilie, c'est ça qui est cool.
Ah ça, les réconciliations, c'est plutôt sympa, je dois dire. Bon, on en parlera.
On a une petite ambiance à envoyer, là. Non, je déconne.
Sur les réconciliations.
Sur les... Ouais.
Non, alors à cette,
je plaisante.
À cette heure-ci, c'est pas raisonnable. Hein, voilà, s'il vous plaît.
Christophe Beaugrand, en 2019, vous vous envolez pour les États-Unis. C'est très cliché en fait, hein, mais pour moi ça c'est le Nevada, les États-Unis, les cowboys,
les
tout
cowboys,
ça.
Les cowboys, c'est ça exactement.
Bref, vous et Ghislain, parce que interdite en France, vous partez au Nevada donc pour avoir recours à la gestation pour autrui. En novembre, naît Valentin, votre fils. La GPA, c'est un sujet qui divise encore. Si on met de côté l'aspect politique, sociétal, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? De la tristesse, de la rage, un sentiment d'injustice?
Il y a plusieurs sentiments. Je ressens, oui, de la colère quand je vois des gens volontairement agiter des arguments qu'ils savent faux pour salir nos familles. Ça me
C'est quoi ces arguments alors? Basiquement.
Les messages que je reçois, que je suis un esclavagiste qui a utilisé une femme dans la misère pour arracher un enfant de ses entrailles, ce genre de choses. Quand je lis ça, parce que ce sont des éléments de langage notamment opérés par les anciens réseaux de la Manif pour tous, et en l'occurrence la GPA, donc gestation pour autrui, auquel on a eu recours aux États-Unis, et ce qu'on appelle la GPA éthique, qui est extrêmement encadrée juridiquement. La femme qui porte votre enfant n'est jamais la mère génétique, puisqu'il y a une donneuse d'ovocytes d'un côté et une mère porteuse de l'autre. Ces femmes qui portent les enfants d'autres familles ne peuvent pas être dans le besoin. Ça peut être que des gens qui ont une vie équilibrée, qui ont de l'argent. En l'occurrence, Whitney, puisqu'elle s'appelle Whitney, il faut avoir l'accord de son mari. Il faut qu'elle ait sa famille bien établie, qu'elle ait déjà eu des enfants. Il y a vraiment énormément de garde-fous. Donc on est vraiment très loin du profil d'une pauvre dame qui vit dans une caravane au fin fond du désert et qui est obligée de porter des enfants pour gagner sa croûte. C'est pas vrai, ça.
Quand je parlais des sentiments, justement, donc vous évoquiez la colère.
Ouais.
Quel autre sentiment
Je dirais une certaine frustration. Moi, ce qui me tient à cœur, en tout cas, c'est d'essayer d'expliquer les choses pour montrer comment ça peut se passer. J'ai pas de combat, je réclame pas l'instauration de la GPA en France, la question n'est pas là. Juste de dire qu'il y a des familles qui ont eu recours à la GPA et les montrer du doigt en laissant entendre que ce sont des monstres inhumains, c'est au-delà du fait d'être extrêmement blessant pour les parents, c'est se moquer complètement des enfants. Et ces gens-là qui prétendent défendre les enfants, montrer du doigt nos familles comme cela, et notamment les familles homoparentales, parce qu'il faut préciser qu'il y a une majorité, il y a plus de 60% des gens qui ont recours à la GPA sont des couples hétérosexuels, mais vous remarquerez que les attaques qu'il y a, notamment sur les réseaux sociaux, ne comportent que les couples de garçons, parce qu'il y a de l'homophobie aussi derrière. Et j'essaye d'amener un peu de vérité dans le discours, et c'est pour ça que j'avais écrit ce livre, et c'est ce que j'essaye d'exprimer là.
Ça vous rend triste ?
Ouais, ça m'a fait de la peine. Et en même temps, ce qui me touche énormément, c'est que je vois que ce message, il a parlé à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient des messages. Alors, il y a eu des couples homo, mais pas que. C'est extrêmement touchant parce qu'il y a beaucoup de familles hétéros qui sont venues nous voir, et de femmes, et de gens qui venaient nous dire moi, j'en ai jamais parlé dans mon entourage, mais on a eu recours à un don d'ovocytes. Mais en fait, on a cassé des tabous, y compris
ouais,
pour
dingue.
Des couples hétéros. En
mais
fait.
Oui, c'est dingue. C'est-à-dire qu'ils n'en parlaient pas.
Non, exactement. Et surtout, quand on est un couple hétérosexuel, aux yeux de la société, il y a ce qu'on appelle la vraisemblance biologique. C'est-à-dire qu'il y a papa et maman, donc on va dire la morale est sauf. Quoi. Voilà. Alors
ouais.
que nous, bah, c'est deux hommes, ou il peut y avoir deux femmes, mais ce n'est pas la GPA, c'est la PMA. Mais par définition, nous, il y a eu l'intervention de quelqu'un d'autre. Et puis les enfants ne vivent pas dans un mensonge. Il y a certaines personnes qui ne le disent même pas à leur propre enfant. Et des enfants qui, à l'âge adulte, découvrent qu'en fait, leur père n'était pas leur géniteur.
Comment ils découvrent d'ailleurs ça?
Bah, ça peut être parce qu'ils sentent qu'il y a eu quelque chose.
Ah ouais.
Quand il y a ce qu'on appelle des secrets de famille, c'est des choses très lourdes. Et le problème, là, ça n'est pas la GPA et ça n'est pas la conception de l'enfant. Le problème, c'est la façon dont la famille a essayé de créer une sorte de secret.
Parce que tabou, parfois, aussi, encore
oui,
dans certaines peur familles.
Peur du jugement de la société, ouais. Peur du jugement des autres. Moi, j'ai essayé de parler, justement, pour apporter un petit peu de liant, un peu de bienveillance et qu'on parle des choses, mais sans se jeter des... Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Je peux comprendre que le concept de GPA dérange. Personne n'est forcé d'y avoir recours, ni dans le rôle d'une femme pour porter un enfant, ni dans le rôle d'une famille. Moi, Whitney, elle nous a raconté et expliqué pourquoi elle le faisait, que pour elle, devenir mère, ça a été un truc extraordinaire dans sa vie et qu'elle avait envie de transmettre à quelqu'un d'autre ce cadeau extraordinaire de fonder une famille. Ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants savent à quel point c'est un truc magique. Et quand, depuis ton adolescence, t'as intégré en découvrant que t'étais homosexuel, que tu ne pourrais probablement pas avoir accès à la parentalité, qui est sans doute la chose la plus extraordinaire, l'aventure la plus extraordinaire que j'ai eu la chance de vivre. Moi, elle nous a changé la vie, Whitney. Tous les jours, je la remercie. Enfin, on a un groupe WhatsApp tous ensemble avec son mari et avec Ghislain, et on s'envoie des messages tout le temps, des photos de nos enfants respectifs. On se connaît tous très bien. C'est une belle histoire de famille, vraiment.
Votre histoire, vous la racontez dans un livre qui s'appelle « Fils à papa ».
Avec un S à papa, puisqu'il y en a
évidemment.
Deux. Voilà.
On rappuie sur le bouton. Nous sommes sur le tournage du prochain Ninja Warrior. Vous avez là dans la main deux galets, des petits galets qu'il faut faire voyager à la mémoire de Bastien.
C'est une dame qui m'a envoyé un message il y a 2 ans en m'expliquant que son fils était atteint d'une maladie orpheline et une maladie incurable. Et elle me demandait est-ce qu'il pourrait s'inscrire à Ninja Warrior parce qu'il est passionné par l'escalade, par les parcours d'obstacles, etc. Et elle m'avait contacté. Il se trouve que c'était une année où on n'avait pas de tournage classique de Ninja Warrior. C'était l'année dernière. Et puis, il y a quelques mois, elle m'a envoyé un petit message en me disant que, hélas, son fils était parti prématurément. C'était évidemment une douleur terrible pour elle. Et elle m'a envoyé ces petits galets qu'elle peint en l'honneur de son fils et qu'elle veut faire voyager. Donc, elle écrit son prénom et elle demande aux gens de les emmener quelque part et de faire une photo, puis de les abandonner à nouveau parce qu'il y a des informations écrites sur le galet avec une page Facebook. Ça me fait un peu penser au nain de jardin dans Amélie Poulain qui voyage dans le monde entier et qui sont en photo partout. Donc, et il y avait elle avait peint des galets avec écrit Ninja Warrior, Bastien, mon champion, etc. Et elle me les a envoyés pour que je les fasse bouger sur le plateau de Ninja Warrior.
Voilà. Donc ces galets vous ont accompagné sur le plateau et puis
ouais.
vous les avez redéposés
ouais,
à un endroit pour que quelqu'un puisse les retrouver ensuite.
Je les ai déposés exactement
aussi.
Sur le parapet à côté de la plage de Cannes et j'avais mis un message sur mes réseaux sociaux en disant si vous trouvez ces galets, continuez de les faire voyager pour la maman de Bastien et pour Bastien parce que voilà, on se met forcément à la place. Moi, je suis devenu parent. Je ne sais pas comment je pourrais réagir et survivre à un truc pareil. Et je trouve que ce qu'elle a décidé de faire, c'est extrêmement poétique, très beau, hyper touchant. Et voilà, c'est magnifique. Donc, j'ai essayé de poser ma petite pierre à cet édifice-là.
Merci Christophe Beaugrand.
Avec plaisir, Déborah Grunewald.
Ninja Warrior, c'est donc cet été sur TF1. Secret Story le 10 juin à 23h30 sur TF1 et ensuite sur TFX et TF1+. Bonjour la matinale, on vous retrouve donc le vendredi à la place de Bruce Toussaint pendant qu'il sera tranquille sur une plage ou
ouais.
à la montagne.
À partir de mi-juillet. Oh, je le connais, ce sera la plage.
Ouais, bah
il
n'est voilà.
pas montagnard.
Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Tous les podcasts, vous les retrouvez sur l'application Radio France et sur toutes les autres plateformes. Passez un super bon week-end. Prenez soin de vous. Salut.